Alors j'aimerais peut-être, juste avant de dire ce que j'ai à dire, vous donner, vous suggérer quelques lectures, parce qu'il est bon de lire. Alors j'ai vu un livre que je n'ai pas encore lu, le livre, comment ça s'appelle, la série des bouquins du GBU, là ? Question suivante. Il y a un livre sur le monde à venir, le jugement à venir, voilà, et j'ai regardé, c'est un collectif, je viens de le regarder, c'est Sylvain qui écrit le chapitre, Sylvain Roubarowski, « Se nouveler la nouvelle terre », et c'est très bien. Je l'ai rapidement lu, vous lisez ça, vous avez déjà une bonne petite base. Alors j'aimerais recommander trois autres textes. Alors tout d'abord un texte dont je vais beaucoup m'inspirer ce matin, puisque bon, j'ai travaillé ça, c'est dans la revue de la faculté, théologie évangélique, j'ai écrit un article sur le ciel, qui est téléchargeable gratuitement sur le site de la faculté, en PDF. Donc Jacques Buchold, vous mettez Jacques Buchold, le ciel, et vous allez voir, télécharger ça, vous avez 30 ou 40 pages de lecture. Je vous aurai un résumé aujourd'hui et demain. Deuxième livre que j'aimerais vraiment vous encourager de lire, et en fait c'est le même auteur qui a écrit ces deux ouvrages, mais c'est pas moi, c'est un autre auteur, mais c'est le même auteur qui a écrit ces deux. Le premier, donc ça s'appelle « La vision chrétienne du monde ». Alors c'est vrai que c'est moi qui l'ai traduit. « La vision chrétienne du monde » de Walsh et Middleton. C'est en français, c'est un livre traduit de l'anglais. C'est un excellent petit livre, « Vision chrétienne du monde ». Qui aborde un peu toutes ces questions de spiritualité, de la place que la création et que la terre jouent dans la vie chrétienne. Et l'autre livre est un livre plus récent, que je n'ai pas encore totalement lu, mais qui est vraiment intéressant. C'est donc de nouveau de Richard Middleton. Là, il n'est pas avec Walsh, son collègue, et c'est en anglais. A new heaven and a new earth. Toute une théologie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Excellent petit bouquin. Alors, je ne sais même plus exactement quel est le titre des conférences que je dois donner, là, de ce que je dois faire. C'est le ciel, notre espérance, quelque chose comme ça. Le ciel, notre espérance. Parce que bon, le ciel, notre espérance. Alors, nous avons chanté. Cette espérance, ça a été dit dans l'introduction de ce qui a été fait déjà ce matin, avant le temps de louange, que nous espérons, nous pensons au ciel, nous sommes des hommes et des femmes du ciel où se trouve Jésus-Christ, et ce thème est un thème extrêmement présent. Nous avons chanté le Notre Père qui est aux cieux. Et nous savons combien ce thème du ciel, notre espérance, est un thème important dans la prédication de Jésus. Les paraboles de Jésus sont très souvent introduites par cette expression « le royaume des cieux est semblable ». Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable à, et vous avez tout un discours, chaque fois une parabole, qui explique en quoi consiste ce royaume des cieux. Alors lorsqu'on parle des cieux, dans ce texte, si je prends les mots anglais, il ne s'agit bien sûr pas du sky, hein, donc il y a la terre et les cieux que nous voyons, lune, les étoiles et tout ça, le soleil, mais il s'agit des cieux, cette réalité invisible qui fait aussi partie de notre création. J'y reviendrai. Les heaven en anglais. En français, nous n'avons qu'un mot, comme en hébreu d'ailleurs, il y a un seul mot pour désigner ces deux réalités. Dans la prédication de Jésus, les cieux occupent une place importante. Heureux les pauvres quant à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus introduit son ministère par cette prédication des béatitudes. Et le sermon sur la montagne, si vous voulez, où il insiste sur cette espérance ou cet ancrage de la vie du croyant dans les cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est le mot d'ordre de toute vie chrétienne. Et c'est votre Père céleste qui sait ce dont on a besoin, dit Jésus dans ce même sermon sur la montagne. L'apôtre Paul, lui aussi, va souligner l'importance de ce thème des cieux du ciel pour la vie chrétienne. Il dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, que le chrétien est citoyen du ciel. Il utilise un mot grec qui est lié au mot polis, la cité. Nous sommes citoyens du ciel, citoyens du royaume des cieux. L'épître aux Galates, il dit que notre capitale, notre mère, ce n'est pas la Jérusalem d'en bas, c'est la Jérusalem d'en haut. L'épître aux Hébreux utilisera cette même expression, ou disons cette même vérité, en parlant de la Jérusalem céleste. Vous, quand vous avez cru en Jésus-Christ, Hébreux chapitre 12, vous vous êtes approchés de l'assemblée des élus, de ceux qui sont prêts, arrivés à la perfection. Vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, non pas d'une montagne ici-bas, comme la montagne de Sinaï, dont les Juifs, lors de l'Exode, avaient peur de s'approcher, mais d'une autre réalité, beaucoup plus glorieuse. C'est la réalité du ciel. Abraham nous annonce, nous dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, lorsqu'il est parti d'Ur en Chaldée, il est dit que l'Épître aux Hébreux dit oui, il cherchait une patrie, mais pas une patrie d'ici-bas. Il cherchait la cité céleste. La cité céleste. Nous sommes des citoyens des cieux. Et ça marque, ça ancre toute notre espérance. L'épître de 1 Pierre nous dit que nous attendons cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, cet héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, dit l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 4, qui nous est réservé dans les cieux. Dans les cieux. Le ciel. Le ciel. Cette demeure de Dieu est notre patrie. Alors, on n'est pas étonné, si l'on comprend cela, que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, souligne que toute notre orientation dans notre vie chrétienne devrait dépendre de cette citoyenneté qui est la nôtre. Nous ne sommes pas d'abord Français. Nous ne sommes pas d'abord Algériens. Nous ne sommes pas d'abord Congolais. Je vois quelques personnes et je cite des citoyennetés présentes. Nous ne sommes pas d'abord Suisses. Nous ne sommes pas d'abord Alsaciens. Là, j'hésite. Mais bon, je veux bien. Nous ne sommes pas d'abord Alsaciens. Mon nom, c'est Buchhold, hein, c'est pas Buchhold. Nous ne sommes pas d'abord Alsaciens. Nous sommes d'abord des citoyens, des membres du ciel, du royaume des cieux. C'est là qu'est notre capitale, notre mère. C'est là qu'est notre Seigneur. Et alors, l'apôtre Paul souligne que si ça, c'est vrai, eh bien, toute notre vie devrait être orientée par cela, ce qui fait notre espérance. Voilà ce qu'il écrit. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort il y a 2000 ans en Christ. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Là-haut, où il est. « Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est une idolâtrie. » Cette vérité de notre identité en Jésus-Christ, de notre appartenance au ciel, devrait conditionner toute notre vie. Cette vérité est très présente dans la théologie chrétienne. Et elle a été développée de diverses manières. Je vous en donne quelques exemples. Pendant toute la théologie du Moyen-Âge, toute la théologie classique, au cœur de l'espérance chrétienne, vous avez ce qu'on appelle la vision béatifique. Le croyant attend d'un jour voir Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette espérance céleste marque la vie des croyants. Par la suite, dans les milieux protestants, on retrouve cela. Et je vais vous lire juste quelques lignes de John Bunyan, un livre que beaucoup connaissent, Le Voyage du Pèlerin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est le genre de livre que j'ai beaucoup de peine à lire personnellement. Mais bon, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre très lu. John Bunyan, baptiste, non-conformiste, qui a passé des années en prison et qui a écrit toute une allégorie sur la vie chrétienne. Et voilà ce qu'il écrit. Lorsque le héros du livre arrive au ciel, vous retrouverez dans la suite avec une joie indicible ceux de vos amis qui vous suivront dans le lieu saint, en présence du Christ au ciel. Vous serez revêtus de gloire et de majesté, tout prêt à suivre le Seigneur de gloire quand il viendra au son de la trompette, porté sur les ailes du vent et à descendre avec lui. Vous serez prêt à descendre avec lui sur la terre. Et lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa justice, vous serez auprès de lui comme des assesseurs de sa personne divine. Oui, quand il rendra son jugement contre ceux qui commettent l'iniquité, soit d'entre les anges, soit d'entre les hommes, vous y donnerez avec lui vos suffrages contre eux, parce qu'ils auront été ses ennemis. Et, écoutez bien, lorsqu'il s'en retournera dans la cité, vous l'accompagnerez au son de la trompette, et vous serez éternellement avec lui, au ciel. De manière plus récente, la théologie dispensationaliste a beaucoup marqué nos milieux chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, si quelqu'un veut lire un livre sur le retour de Jésus-Christ, il va très spontanément lire le livre de René Pache, Le retour de Jésus-Christ. Et dans la théologie dispensationaliste, l'enlèvement de l'Église au ciel et l'espérance céleste des noces de l'agneau au ciel occupe une place très importante. Mais l'on retrouve cette même façon de comprendre les choses au GBU, j'en suis sûr. Lorsque vous chantez l'un des cantiques classiques de tous les évangéliques, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Écoutez la dernière strophe, je vous la lis. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que, laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour que tu es bon, que tu es grand, je ne me souviens plus, ô Dieu d'amour. Je redirai dans son divin séjour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Le ciel. Le ciel. Alors la question qui se pose, est-ce que cette façon de comprendre les choses est juste ? Il est certain que le ciel occupe une place extrêmement importante dans notre espérance. Que le ciel, là où est Jésus, occupe une place très importante dans nos préoccupations, dans l'orientation de notre vie. Nous appartenons au ciel, nous sommes citoyens du ciel. Mais est-ce là le ciel, le fin mot de l'espérance chrétienne? L'espérance chrétienne, est-ce le ciel? Où est-ce la terre? Et j'aimerais, dans mon propos de ce matin, de demain, chercher à vous montrer que, dans l'Écriture, l'espérance ultime du croyant, qui est bien sûr aujourd'hui ancrée dans les réalités célestes, que cette espérance ultime du croyant, non, c'est pas de redire dans le divin séjour combien l'amour du Seigneur est grand, là-haut, au ciel, mais que c'est le dire sur une terre renouvelée, changée, transformée, lorsque le ciel lui-même descendra sur la terre. Voilà le sujet de ces deux conférences que j'aimerais vous donner. Et j'aimerais chercher à le montrer en faisant d'abord un petit survol de l'espérance des croyants de l'Ancien Testament, ce qui nous amènera à la fin de ce que je vais dire ce matin à quelques éléments que l'on trouve déjà dans le Nouveau Testament. Puis demain, j'aimerais vous parler de l'histoire du ciel et montrer ce que la Bible nous dit de l'histoire que le ciel a déjà connue et que le ciel va connaître, selon la parole de Dieu. Le ciel. Alors j'ai dit qu'il faut bien sûr distinguer le ciel sky du ciel heaven. Et c'est vrai que dans l'Écriture, il y a une différence très claire qui est faite entre le ciel matériel que nous voyons, le sky, et le ciel invisible, où sont présentes de nombreuses créatures créées par le Seigneur, comme cette création matérielle, où sont présents les anges, les démons, et où Jésus, très certainement, est présent actuellement. Ce heaven, ce monde invisible que donc nous ne pouvons pas voir, qui ne peut pas se repérer géographiquement avec les yeux, ce monde invisible est le lieu où Dieu est particulièrement présent au sein de sa création. Dieu règne non seulement partout en tant que créateur, omniprésent. Dieu est en dehors de sa création, il règne sur sa création, partout. Mais l'Écriture semble nous dire que Dieu est aussi quelque part dans sa création en tant que roi de l'univers. Comme s'il y avait un lieu de sa création où sa présence est plus particulièrement présente au sein de sa création. Et cette partie de la création de Dieu, qui n'enferme pas Dieu, Dieu est extérieur, ou je ne sais pas comment dire, la création est englobée. Je suis alsacien, mais un peu italien, faut m'excuser. Hein. La création est englobée dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas extérieur à sa création. Mais d'une certaine manière, Dieu est aussi plus particulièrement présent quelque part. Et c'est ce que l'Écriture appelle le ciel, le heaven, distingué du sky. Alors, la question que j'aimerais poser maintenant, c'est est-ce que c'est heaven? Est-ce que ce ciel est l'espérance des croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament? Ça nous donnera une bonne introduction à ce que nous verrons demain, l'histoire du ciel. Vous devez bien sûr, je pense, bien connaître les psaumes. c'est un livre qui nous parle, les psaumes. Même en tant que chrétiens, nous avons l'impression de pouvoir prier ce que prient les psaumes. Et ces psaumes sont le livre de la piété d'Israël. Les croyants expriment leur espérance dans la prière, leurs supplications, leurs plaintes, leurs louanges, leur foi. C'est un livre, les psaumes, où s'exprime tout ce que le croyant de l'ancienne alliance pouvait dire au Seigneur d'une manière la plus intense possible. Où s'exprime dans les psaumes l'espérance du ciel? L'espérance qu'un jour ils pourront fuir ce monde, sortir de ce monde et être avec Dieu. Je ne le vois pas. En revanche, je vois de très nombreux textes qui disent, je lis le psaume 30, verset 10, « Éternel, si je descends dans la tombe ou dans le séjour des morts, on peut traduire des deux manières, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité ?» Psaume 30, verset 10. Je vous lis le psaume 6, verset 6. « Ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ?» Je vais vous lire le psaume 88, verset 6. Psaume 88, verset 6. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. 88, verset 6. Là, je suis en 86. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui déjà sont couchés dans la tombe que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus. Verset 11. Feras-tu, Seigneur, des miracles pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes miracles là où sont les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? 115, verset 17. Les morts ne te louent pas, Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Mais nous, nous louons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et je pourrais multiplier les citations. Alors bien sûr, je sais qu'il y a autre chose, parfois, qui s'exprime dans les psaumes. Par exemple, le psaume 49, verset 16. « Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. » Le psalmiste semble peut-être penser à l'expérience d'Enoch, à l'expérience d'Élie. Le psaume 16, c'est David qui prie, et qui peut-être annonce, même assurément, la venue du Messie. Il est dit « Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts. » Et l'on sait que dans l'Ancien Testament, le séjour des morts n'est pas un lieu où l'on ne subsiste pas. Plusieurs textes soulignent qu'au séjour des morts, il y a les âmes. Ou... En fait, c'est un autre mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Les réphaïm, les ombres de ceux qui ont été. Oui, il y a quelque chose qui reste. Quelque chose reste de l'homme, de l'être humain. Mais jamais il n'est dit dans l'Ancien Testament que les réphaïm, ces ombres, vont au ciel. Et jamais il n'est suggéré que c'est là qu'ils vont enfin vivre la vraie vie. Et pour moi, c'est une des preuves, l'une des belles preuves de l'originalité de la vérité de l'Ancien Testament. Parce que vous voyez, dans le monde antique, prenez le Moyen-Orient ancien, il n'y a pas un peuple du Moyen-Orient ancien qui n'avait pas plein de théories sur la vie après la mort. Regardez les Égyptiens. Vous avez des livres entiers qui vous parlent de la vie après la mort. Ils construisaient même quelques petites pyramides pour assurer le bien-être des pharaons après la mort. Lisez les textes de la Mésopotamie sur la vie après la mort. Les Grecs, les Romains, c'était moins glorieux, la vie après la mort chez les Romains. Mais vous avez tous vu le film... comment ça s'appelle ce film ? Aïe ! Ça y est. Ceux qui sont dans les arènes là, pour se battre. Gladiator, vous avez vu Gladiator ? À la fin du film, quand il va dans les Champs-Élysées, dans la vie après la mort, où il retrouve sa femme, ses blés qui avec le vent, enfin il est dans l'autre monde, enfin il est dans son ciel à lui. Rien de ça dans l'Ancien Testament. Le monde des morts est un monde inconnu. Il y a quelque chose. Mais l'Écriture ne dit rien. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce qui fait la vie de l'homme, ce qui est toute la foi des croyants de l'Ancienne Alliance, c'est l'homme tout entier. C'est dans cette vie. C'est pas lorsqu'on meurt, lorsqu'on est détruit, lorsque le corps pourrit, qu'on loue Dieu. C'est quand on est dans son corps, quand on est un homme, une femme, pleine et entière. Les morts ne te louent pas, Seigneur, mais nous, nous te louons. Parce que ce que Dieu a créé, c'est l'homme. Et l'homme, c'est pas un moitié d'homme, une moitié d'homme. C'est pas les réphaïm, les ombres. Et alors, il est intéressant de voir que lorsqu'il y a quelque chose qui commence à apparaître dans l'Ancien Testament, dans l'espérance, ça vient assez tôt même. C'est quoi ? C'est pas l'espérance qu'après la mort on va se retrouver dans le ciel. L'espérance qui l'on voit poindre dans l'Ancien Testament, c'est l'espérance de la résurrection du corps. Si après la mort l'homme va encore louer Dieu, ça ne peut être que dans son corps, car Dieu veut des hommes intègres, entiers, qui louent le Seigneur. L'espérance de la résurrection. Et ça, on le trouve. Nous avons lu Job. Superbe passage. Job 13. C'est quand même incroyable, ce Job. Quel culot. Quelle foi. C'est un peu la même chose. Il ne connaît pas Moïse. Il connaît Dieu au travers de sa providence et de l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Et à un moment, il dit, mais pourquoi est-ce que je souffre ? Je ne suis coupable d'aucun péché. Mais je souffre. Et alors, ce Job se tourne vers Dieu et dit, Dieu, mais pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il croit en Dieu. C'est les païens qui ne se tournent pas vers Dieu pour dire pourquoi. Moi, en tant que chrétien, la souffrance met un problème. Et c'est à Dieu que je dis pourquoi. Mais j'ai le droit de le dire. Les psaumes sont pleins de plaintes. Mais en même temps, Job sait très bien, je ne devrais pas le dire, je ne devrais pas accuser Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il oppose Dieu à Dieu presque. Même s'il me tuait, je croirais en lui. Et tout à coup, petit à petit, dans Job, vous avez Dieu à côté de Dieu. Et je vous lis le texte. Il dit ça à Dieu. « Mais je sais, moi, que mon défenseur, mon rédempteur, mon défenseur est vivant. » Dieu en Dieu. « Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. » Ce qui m'arrive. « Après que cette peau aura été détruite, » Job parle de sa mort, « moi, écoutez bien, dans mon corps. » Et c'est, je crois, la meilleure façon de traduire. Il y a beaucoup de débats là-dessus. « Dans mon corps. » Prenez la Bible du Semeur, vous avez une très très bonne note d'étude sur ce texte. « Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. » Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti. Le Dieu qui semble me condamner prendra mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi. S'il y a une espérance possible, cette espérance ne peut être que l'espérance dans mon corps. L'espérance des croyants de l'ancienne alliance n'est pas une espérance de sortie du monde. C'est une espérance de restauration du monde. De restauration de la vie, de restauration de l'homme. Il y a là un accent extrêmement terrien. Et vous avez beaucoup de textes qui expriment ça, ou plusieurs textes qui expriment ça dans l'Ancien Testament. Daniel 12, verset 2. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle, ressusciteront. » Ésaïe, chapitre 25, verset 7 et 8. « Sur cette montagne Sion, le Seigneur anéantira le voile qui voile tous les peuples, il anéantira la mort pour toujours. » La mort n'est pas la porte d'entrée dans la félicité. La mort est un ennemi qui va être détruite. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Ésaïe, chapitre 26, verset 19. « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, poussez des cris de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre redonnera le jour aux ombres. » Voilà l'espérance. Non l'espérance d'un départ de ce monde, mais l'espérance d'une restauration du corps de l'homme. Mais ce n'est pas tout. S'il est vrai que dans les psaumes, dans l'Ecclésiaste, dans Job, dans tous ces merveilleux livres de piété personnelle, ou communautaire, mais de piété des croyants, on trouve cette vérité que l'espérance, ce n'est pas une espérance d'un au-delà dans un autre monde, mais c'est une espérance d'une restauration du corps, d'une restauration de l'homme. Vous trouvez ça alors développé, mais constamment dans les prophètes. Dans les prophètes. Où voyez-vous dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abda, Joël, Asmi, Chéna, Mergus, Sophania, Jessica, Malachi. Où voyez-vous, à un moment, que Dieu envisage la disparition de notre monde pour tous nous faire vivre au ciel? Citez-moi un texte. Moi, quand je lis Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abda, Joël, Asmi, Chéna, Mergus, Sophania, Malachi. Je trouve quoi ? Espérance d'un monde transfiguré, d'une terre glorifiée. Le loup habitera avec l'agneau, car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Là où la mort n'aura plus sa place, ce sera une sorte de pays de Canaan glorifié, complètement changé. Le texte dit « le désert va refleurir, les sourds vont entendre, les aveugles verront, la terre desséchée se changera en lac » Ésaïe 35, versets 5 à 7. Ce seront des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et je l'ai dit, où le loup et l'agneau habiteront ensemble, où les maux du passé seront oubliés, il n'y aura plus de mort. La terre donnera ses fruits. Ésaïe chapitre 65, l'expression de nouvelle terre et nouveaux cieux est présente. Les textes me parlent de quoi ? Me parlent d'une Jérusalem totalement glorieuse, la gloire de Dieu se révèle sur toi. Jérusalem, ta lumière apparaît, Ésaïe, chapitre 60. C'est une Jérusalem transfigurée, rayonnant, toutes les nations affluent, même les navires au long cours, ce qui est les navires de Tarsis. Tous les habitants, dit le texte, Ésaïe 60, verset 1 à 3, verset 3 et 7, 54, 13, tous les habitants de cette nouvelle Jérusalem seront disciples de l'Éternel. Et cette Jérusalem sera construite avec des rubis, avec des pierres précieuses, une porte de diamants. Oh ! Déjà qu'on voyait le prix d'une petite bague, des portes et des murailles de diamants. Je ne vois pas un instant dans les prophètes que l'espérance serait décrite comme une échappée de ce monde pour aller autre part, dans un ciel autre, le heaven. Mais je vois, oui, une création transformée, changée. Une création ressuscitée, pourrait-on dire, comme le corps humain.
Alors vous savez que dans l'histoire de l'Église, on a interprété ces textes de l'Ancien Testament de diverses manières. Certains, et ça a été très courant au cours du Moyen-Âge, ont totalement spiritualiser ces textes, en disant que lorsque ces textes nous parlent d'une Jérusalem transformée, glorieuse, c'est une façon de parler du ciel. Mais cela pose quand même certains problèmes herméneutiques de faire cela. Comme si il fallait tout allégoriser, comme si les mots même utilisés n'avaient plus le sens qu'ils ont, mais renvoient toujours à une autre réalité. Le désert refleurit, c'est notre présence auprès du Seigneur au ciel. Bon. Ça me semble difficile à justifier. C'est pour ça que d'autres ont réagi très fortement, en disant « Mais non, ces textes nous parlent d'une réalité sur la terre !» Et toute la théologie dispensationaliste va beaucoup insister sur l'existence d'un millénium, où ces textes vont être accomplis littéralement. À Jérusalem, en Israël, dans le monde, où les nations du monde entier, même les Alsaciens, viendront adorer à Jérusalem, etc. Le problème, c'est qu'une telle façon de comprendre rend-elle vraiment justice au texte ? Peut-être, je ne sais pas, mais les textes disent que c'est une réalité éternelle que Dieu va créer, pas pour 1000 ans seulement. Et de nouveau, quelle est l'espérance ultime alors ? Est-ce que c'est après comme... Prenez René Pache, C'est un homme extraordinaire, René Pache, hein, si je me permets de le critiquer sur... Vous savez que René Pache, dispensationaliste convaincu, millénariste convaincu, lors de la création de la faculté de théologie, libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, il a fallu choisir le professeur qui allait enseigner la dogmatique. Et celui qui était bien sûr tout à fait désigné pour ça, c'était Henri Blocher. Henri Blocher est amillénariste. Donc il ne pense pas comme René Pache. Et certains, les milieux évangéliques, étaient très dispensationalistes. Et certains disaient non, ça peut pas être, M. Henri Blocher ne peut pas être le professeur de dogmatique. Et celui qui, dans le conseil d'administration de la création de la faculté, a insisté pour que ce soit Henri Blocher qui soit professeur de dogmatique, c'est René Pache. Alors que sur ces points-là, il était totalement, il avait une pensée totalement opposée à celle d'Henri Blocher. Un homme remarquable. Mais c'est vrai que son livre, qui pendant 50 pages, 60 pages, parle des changements de la Terre lors du millénium, lorsqu'il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle Terre, il y a 2 pages. On n'a rien à dire. C'est comme Bunyan. Jésus va juger le monde et puis après tout le monde part au ciel. Mais où est-ce que l'Écriture, dans l'Ancien Testament en tout cas, nous parle de ce ciel ? Il nous parle de cette espérance d'un départ de la terre. Je ne le vois pas. Et le texte, ces textes-là, parlent de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ésaïe 65, Ésaïe 66. C'est une nouvelle création qui va... C'est pas pour 1000 ans, c'est pour toujours. D'où la troisième façon d'interpréter ces textes, de manière typologique. Ces textes parlent bien de la terre et nous disent bien que l'espérance des croyants de l'ancienne alliance, c'est la résurrection du corps, c'est le changement de la terre, c'est une transformation, une libération du péché, du monde même, de la création de Dieu lui-même. Et comment ils en parlent ? À partir de ce qu'ils connaissent, du pays de Canaan, de la Jérusalem qu'ils connaissent. Ils disent, ce sera comme ça, mais ce sera différent. Ce sera comme Jérusalem. Mais tout sera construit avec des diamants, avec des rubis, avec des topazes, avec des pierres précieuses. Mais c'est la terre, notre espérance. C'est la résurrection du corps, notre espérance, nous disent les croyants de l'ancienne alliance. Alors j'aimerais juste finir là-dessus, parce que Marion est en train de me dire... Je ne sais pas ce que ça veut dire, elle est aussi italienne un peu, mais... Je réponds, hein. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Juste une remarque. La Jérusalem, cette Jérusalem qu'attendent les prophètes, il est dit qu'elle est construite avec du lapis lazuli. Pierre précieuse. Vous savez où on trouve le lapis lazuli dans le reste de l'Ancien Testament ? C'est la description du trône de Dieu. Vous savez, Moïse, sur la montagne de Sinaï, il voit le trône de Dieu, il voit la mer transparente, il voit le trône qui est en lapis lazuli. Ézéchiel, le trône qui descend. Oh, il va voir Dieu, vous savez. Et là, lapis lazuli. La Jérusalem terrestre. Cette nouvelle terre, attendue par les prophètes, cette Jérusalem sera construite avec le matériau même du ciel. Comme si le ciel s'unissait à la terre. Ça, c'est pour le prochain épisode. Amen.